Puis je les regarde. Oui, je me rappelais de lui. Parce que juste quelques semaines avant, c'était lui qui était en prison et moi à la porte. C'était des Juifs que nous avons ramassés pour les envoyer en Allemagne. Et c'était un des Juifs, de ces Juifs-là. Il me dit, te rappelles-tu de moi? Quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, aucun espoir. Il va certainement se venger pour les crimes que la garde a fait.
Hier,
tout avant midi, jusqu'à à peu près 11 heures. Tout d'un coup, à 11 heures, il me regarde et il me dit, va-t'en chez vous. Oui, eh bien, je n'ai pas demandé qu'il me le répète deux fois. J'ai ramassé mes quelques affaires, puis je m'en vais chez nous, j'ai sauté, j'ai sifflé, et j'étais content, j'avais la chance, j'ai échappé belle. Dieu? Oh, j'ai oublié déjà. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, j'ai dit, père, tu ne devinerais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit comment j'étais pris par les Russes, comment j'étais emprisonné, comment j'étais relâché. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Jean, tu dois te convertir. J'ai rien dit. J'ai décidé de partir chez nous. La guerre était finie. Les magasins commençaient à ouvrir. J'ai travaillé dans un magasin. J'allais au cours du soir. J'ai dit, je m'en vais à Bratislava. Je vais gagner de l'argent. Je vais profiter de la vie. Je vais avoir du fun. C'est ça que j'ai fait. J'allais à Bratislava. J'avais des bons salaires. On était bien des jeunes. J'avais quoi? 19 ans. On était une gagne. Et on sortait les soirs, on a pris un coup, et on chantait. Oh, on a gagné la plus heureuse de Bratislava. Quand on traversait les rues, quand on était dans les rues, tout le monde savait qu'on s'en arrivait. Et une gagne heureuse comme vous ne croirez pas. Sauf que, quand j'arrivais à la maison, et quand tous ses amis étaient partis, c'est vide. La tête, l'un des malestements, quelle affaire. Je me suis dit, ça c'est pas le bonheur, il doit en avoir mieux que ça. Alors, je me suis mis à la recherche du bonheur. Le théâtre, j'allais d'un théâtre dans un autre théâtre, j'ai visité tous les théâtres, j'étais chaque jour dans un théâtre quelconque, on n'avait pas de télévision. Je cherchais les bonheurs. La musique, je cherchais les bonheurs. Tout ce que je pouvais m'imaginer, qu'est-ce qui peut apporter les bonheurs pour un jeune de 19 ans? Quand j'ai tout essayé, finalement, je me suis dit, oh, je sais qu'est-ce que ça te prend. Ça te prend la nature, les montagnes. Alors, je suis allé dimanche matin à 6 heures, faire un pique-nique tout seul dans les bois. Et j'étais à la recherche du bonheur. Je n'étais pas capable de m'asseoir et de me griller. Je cherchais le bonheur. Mais savez-vous quoi? Je ne l'ai pas trouvé. Il n'y avait pas le bonheur dans les bois, dans les montagnes. Je suis revenu à la maison et je me suis dit, qu'est-ce qui est vraiment et dans la vie. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vis-je? Je me suis dit, j'ai 19 ans. C'est supposé d'être la plus belle âge de la vie d'un homme, d'une personne. Je me suis dit, c'est dans les 19 ans que j'ai connu, il n'y a rien de mieux que ça. Pendant des années, à partir du 14 ans jusqu'au 19 ans, j'avais une migraine jour après jour, jour après jour, au point que je ne voyais pas. Je me suis dit, si c'est juste ça, la vie, pourquoi la vivre? À quoi bon? cette année-là, je ne suis pas allé à la maison pour Noël. C'était à 45 Noël, j'ai resté à Bratislava. Alors que les amis étaient partis, c'était vraiment triste. Oh, j'ai pensé à Danube. Je me suis demandé si peut-être la meilleure des choses ne serait pas de sauter dedans et de finir avec la vie, parce qu'il était tellement, tellement vide. Et c'est arrivé comme ça le 1er janvier 1946. Je suis parti le matin, je ne savais pas où j'allais. Mais j'étais dégoûté de la vie. Puis, j'ai erré dans la ville de Bratislava. J'allais d'une place à l'autre, d'une rue à l'autre. Je ne savais pas où j'allais. Mes pensées, tout ce que... La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était les fleuves, c'était les Danube. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais je me retrouvais dans une chapelle évangélique baptiste. Mon père m'en a dit maintes fois, Jean, vas-y aux réunions, vas-y aux réunions. Je ne voulais pas aller à ces réunions-là. Mais ces jours-là, je suis entré dans cette réunion. J'arrive là. Il y avait du monde. Mais c'est les mêmes visages que de mon père. Je voyais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Alors imaginez-vous tout de suite. Je me sentis à part. Alors, la place la plus reculée, c'était la dernière rangée. Je me suis assis là. Puis j'ai regardé. Pour vous dire la vérité, je n'ai rien compris de quoi il parlait. C'était un langage étrange pour moi. Puis j'étais gêné, comme on ne croirait pas. Mais à la porte, parce que c'était le 1er janvier, et la veille, ils avaient un panier où ils tiraient, où ils pigeaient les versets bibliques. Alors, ces jours-là, ils ont dit que ceux qui n'étaient pas là la veille, de prendre un verset en partant. Alors, comme j'étais tout près de la porte, ça n'a pas pris longtemps que j'ai sorti, mais j'ai pris un petit papier, à peu près comme le bout d'un onglet. Tout petit, tout petit. Je mets ça dans ma poche, je suis parti. Quand j'étais assez loin, que j'étais sûr que personne ne me regardait, j'ai regardé en arrière, il n'y avait personne dans la rue, j'ai osé de mettre ma main dans la poche et de sortir ces petits papiers de ma poche. C'est marqué 3 Jean 11. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 Jean 11. Je n'avais pas de Bible, je n'avais pas de Nouveau Testament, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais j'avais une clé de la chambre de ma tante religieuse. Et elle avait une Bible. Alors, je suis allé à l'hôpital, j'ai monté au 4e étage, je suis allé dans sa chambre, j'ai pris sa Bible et j'ai commencé à lire. Ça commence comme ça. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Je me suis dit, un beau verset. Je vais l'apprendre par cœur. J'ai commencé à répéter. Bien-aimé, n'imite pas les mal. Bien-aimé, n'imite pas les mal. Bien-aimé, n'imite pas les mal. Hein, j'ai dit quoi? Tout d'un coup, j'ai réalisé deux choses. Tout d'abord, en slovaque, c'est toi, bien-aimé. Deuxième personne singulier. C'est dit, toi, bien-aimé. Comme si Dieu m'aurait parlé directement à moi. Mais après, il dit, n'imite pas le mal. Et je savais que je n'étais pas... Ah, j'étais un bon garçon, vous voyez, j'ai pas fait des... Non, j'ai pas tué, c'est vrai. Pour dire que je n'ai pas volé, je ne pouvais pas dire ça. Parce que j'ai approprié des choses qui ne m'appartenaient pas. Mais Dieu dit, bien-aimé, n'imite pas le mal. Il dit, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis dit, comme je pouvais comprendre, c'est une personne qui n'était pas convertie. Et je savais que je n'étais pas converti. Alors, ce jour-là, dans la tranquillité de la chambre de chez ma tante, j'ai commencé à calculer et je me suis dit, combien, au fond, la vie, combien ça dure une vie? Combien aimeriez-vous vivre? Combien longtemps? Une belle, longue vie. Moi, je me suis dit, 100 ans. Hein? Qu'en pensez-vous? 100 ans. Je me suis dit, supposons que je vivrai 100 ans. Pas pire, ça? Bon. Alors, j'ai mis 100 ans sur la table devant moi, ici, là. 100 ans. Là, à côté des 100 ans, j'ai mis l'éternité. Je n'avais pas assez de place. Parce que ça continuait, il n'y avait pas la fin à ça. Alors j'ai essayé de comprendre dans ma tête la comparaison, la relation entre 100 ans et l'éternité. Je suis venu à la conclusion que 100 ans c'est rien, absolument rien, pareil comme un clin d'œil. En face de l'éternité. Alors après ça, je me suis posé une deuxième question. Je me suis dit, supposons que pendant ces 100 ans-là, que je peux tout avoir, tout. Pas de maux de tête, pas de contrariété, juste des amis. Avoir mangé les gâteaux et les croissants pour petit déjeuner, c'est déjà de quoi? Avoir une auto rouge, puis habiter dans un château pendant 100 ans de temps. Aimeriez-vous ça? Moi, je me suis imaginé une belle vie. Laissez-moi vous dire, mon imagination, pas de problème avec ça. Alors, je me suis dit, supposons que j'ai une telle vie pendant 100 ans. Mais après, 100 ans, ça finit. Après, c'est la mort. Puis après, l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a dans l'éternité, je me suis demandé. Mais si je touche sur la vie, si je profite de la vie et après je m'en vais à l'enfer, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un enfer? Qu'est-ce que c'est l'enfer? Qu'est-ce que ça a l'air? J'ai pensé à des versets que j'ai déjà connus, que mon père m'a récité ou que j'ai appris dans les catéchismes quand j'allais pour ma confirmation. Parce que dans les églises protestantes, on faisait aussi la confirmation à 14 ans. Alors, je savais que la Bible parlait de l'enfer comme un endroit où il y a des pleurs, où il y a des ténèbres, du dehors, les grincements des dents. Quand j'ai commencé à penser à tout ce que la Bible dit au sujet de l'enfer, il me semblait que mes cheveux commençaient à se dresser sur ma tête. Et je vous dis, j'ai une frousse, une chair de poule sur mon dos. Je me suis dit, c'est pas la place pour y aller. Alors je me suis dit, supposons que je vivrai pendant 100 ans, mais qu'à la place de tout avoir, qu'on me prendrait, on ferait de moi un barbecue. Et que pendant 100 ans de temps, je serai continuellement rôti, sans arrêt pendant 100 ans de temps. Aimeriez-vous ça? Non. Mais je me suis dit, supposons que pendant 100 ans de temps, je souffrirai comme ça. Mais après la mort, après 100 ans, je meurs, puis je m'en vais dans le ciel pour toute éternité. Je me suis dit, ça vaut la peine.